C'est dans cet esprit que je vais essayer de vous parler du chômage. Alors pourquoi le chômage? Je crois que c'est le problème principal de la France et depuis longtemps. Je vais vous montrer des chiffres, on va regarder un peu les choses en détail. Mais je crois que s'il n'y avait pas ce chômage gigantesque en France depuis aussi longtemps, une grande partie de nos problèmes n'existerait pas. Pourquoi? D'abord, le chômage, c'est la principale source de pauvreté. Les pauvres sont avant tout des chômeurs, il y a des cas particuliers, mais au point de vue statistique, c'est la principale source de pauvreté. C'est aussi quelque chose qui s'est répandu, enfin qui est très développé dans les banlieues, donc ça touche des problèmes de sécurité, mais ça touche aussi les questions de terrorisme, ça touche aussi les questions de non-intégration des jeunes dans les quartiers défavorisés, de manque d'éducation. C'est aussi quelque chose qui touche les familles, parce que les parents sont terrorisés à l'idée que leurs enfants puissent être chômeurs, donc ça se retrouve dans l'éducation, avec la pression des familles sur l'éducation, je veux pas que mon fils ou ma fille soit chômeur. Ça touche les familles, parce que quand il y a quelqu'un dans la famille qui est chômeur, ça crée des tensions, il y a des divorces, enfin c'est un problème extraordinairement vaste. Ça touche aussi la politique, parce que quand les gens ont peur, ils deviennent relativement méchants, et quand ils deviennent méchants, ils sont attirés par des partis politiques qui cultivent la méchanceté, donc ça a aussi un impact. Pour moi, c'est le problème. S'il y a un gros problème, c'est pas le seul malheureusement, mais s'il y a un gros problème en France, c'est le chômage. Donc c'est un problème massif. Si ma voix, je sais quand je commence, enfin j'ai tendance à baisser, donc si
vous m'approchez peut-être,
vous vous agitez, vous m'agitez, j'essaierai de porter plus fort. Il y a des, sur les trucs que je vais projeter, il y a des endroits, c'est des petites lettres, donc vous serez mieux devant.
Approchez vos sièges ici, peut-être là.
Donc ce que je voulais dire au départ, c'est pour moi, c'est le problème essentiel, et le jour où on aura réglé le problème du chômage, il y a un nombre très important de choses qui iront beaucoup mieux. En plus, ça coûte très cher, et les problèmes que ça crée, ça coûte très cher, comme par exemple les problèmes de police et de sécurité dans les quartiers difficiles ou même plus. Donc c'est un problème absolument massif qui dépasse de très loin juste le phénomène du chômage. Alors maintenant que j'ai vendu ma salade, ça c'était le marketing, je vais rentrer dans le sujet. Donc d'abord quelques chiffres pour bien comprendre pourquoi la France a un problème et quelle est la nature du problème. Alors là j'ai pris, vous arrivez à lire ou pas vraiment?
Non.
Vous voyez les courbes à peu près?
Alors, le bleu c'est la France, le noir c'est l'Allemagne et le vert c'est la Grande-Bretagne. Donc, et ça commence en 1960 et ça se termine en 2017, ce qu'on a comme chiffre sur 2017. Ce qui est important de voir, c'est que tout le monde en Europe, j'ai pris les partenaires importants de la France, mais aussi des pays où il s'est passé des choses, tout le monde en Europe n'avait pas de chômage dans les années 60. En 73, vous voyez, le taux de chômage était autour de 2%. Donc les gens qui, comme moi, ont des cheveux gris, se sont élevés dans un monde où on ne s'est jamais posé de questions de chômage. Ça n'existait pas. Enfin, moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais pensé que tu puisses être au chômage, ça n'existait pas. Il y a 2%, c'est un niveau minimum, je peux expliquer pourquoi il y a un niveau minimum, mais ce n'est pas essentiel. Et puis ça a explosé après le choc pétrolier de 1973, donc on a une explosion générale, et la France a fait partie de l'explosion générale, et puis il y a eu tout un tas de perturbations, en particulier sur le pétrole, la croissance était cassée, la croissance économique était cassée, le chômage partout est monté, et on est passé ici, c'est 2%, là c'est 8, là c'est 10, donc on a changé l'ordre de grandeur, et quand un dixième de la population est au chômage, ça touche chacun. C'est-à-dire que ça devient une menace tangible, et on connaît tous dans nos familles, dans nos amis, des gens qui sont au chômage. Donc on a le problème a changé complètement de magnitude. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que la Grande-Bretagne et l'Allemagne aujourd'hui sont aux alentours, sont entre 4 et 5%. Donc ce n'est pas aussi bien que dans le bon vieux temps, mais le bon vieux temps ne revient jamais. Mais c'est nettement mieux, c'est un problème tout à fait gérable, et le chômage n'est plus une source de souffrance collective et individuelle. Par contre, nous, on est toujours là-haut,
et si on regarde ce qui s'est passé de la France depuis en gros 1980, donc depuis 37 ans, enfin, 30, plus de 3 décennies, le taux de chômage en France n'est jamais vraiment sorti de entre 8 et 10%. Donc on est complètement coincé ici. Et c'est pas un phénomène général, ça fait pas du mal à tout le monde. Ouais.
Une question pour
comprendre. Oui, allez-y.
Est-ce que le calcul du taux de chômage est fait de la même façon
Alors, oui, excellente question. Donc, il y a des controverses sans fin sur le taux de chômage. Est-ce que c'est le bon chiffre? Est-ce que c'est pas le bon chiffre? C'est jamais le bon chiffre. Un des problèmes en économie, c'est que là, on parle de, en France, 60 et quelques millions d'habitants. On ne peut pas surveiller exactement. Les gens ont des raisons de ne pas toujours dire la vérité. On se trompe. Donc, ce n'est pas d'une précision absolue, nulle part. Ça, ce sont des données de la Commission européenne qui sont harmonisées. En fait, il y a un truc qui s'appelle, c'est à Genève, qui s'appelle le Bureau international du travail, qui a harmonisé la définition et la collecte des informations. Donc c'est comparable. C'est des chiffres qui sont aussi sujets à caution d'un pays à l'autre, mais c'est comparable. Donc il ne faut pas regarder ça au quart de coin. Oui.
Excusez-moi, comparable depuis quelle année?
Non, depuis le début. Ça, c'est des chiffres qui ont été reconstitués. Oui.
Parce que donc, les définitions du chômeur en France sont bien...
Oui, bien sûr. Aussi. Non, mais là, c'est une convention. Donc, ce n'est pas les chiffres officiels français. Il y a une convention internationale au Bureau international du travail, et à partir de laquelle on a remouliné les chiffres. C'est d'ailleurs pour ça que je commence en 1960, parce que ce n'est pas remonté auparavant.
Alors, on a fait
un rétro... Oui, on a fait un rétro-calcul.
D'accord.
Ouais.
Je pense que je passerai plutôt à
l'heure. Oui, non. Je laisser quand même plutôt...
J'avais prévu de passer à peu près la moitié du temps à parler.
Voilà, ensuite,
mais si vous avez des problèmes de clarification, s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires, il faut m'arrêter et répondre. Ok. Si vous n'êtes pas d'accord, par contre, vous ne dites rien jusqu'à présent. Alors, maintenant, je vais regarder les choses d'un peu plus près et vous expliquer ce qui s'est passé. Et donc, ce que j'ai fait ici, c'est qu'au lieu de prendre année après année, comme tout à l'heure, j'ai fait par décennie la moyenne. Donc ça, c'est la moyenne du chômage. Donc la France, c'est toujours bleu, le vert, c'est la Grande-Bretagne, et le noir, c'est l'Allemagne. Donc si vous regardez par exemple l'Allemagne, sur les années 60, donc ça c'est 60 à 69, ensuite j'ai 70 à 79, donc j'ai fait des moyennes. Donc 60 à 69 en Allemagne, le chômage était en moyenne en dessous de 20%. Il n'a pas été 1% tout le temps, vous l'avez vu sur la figure précédente. Et une chose que je veux quand même montrer sur la figure précédente aussi, parce que ça va dégager. Donc vous voyez l'Allemagne, ça n'a pas été plat, j'ai fait la moyenne de ça. Et alors, ce que je veux dire pour la discussion qui suit, ça bouge. Donc je vais faire disparaître ces mouvements de serpent tout à l'heure. Ça bouge. Il y a deux choses qu'il faut bien garder à l'esprit pour séparer. Il y a ces mouvements comme ça, et puis il y a quand ça décolle ou quand ça redescend, mais franchement. Donc ces mouvements haut et bas, ça c'est ce qu'on appelle cyclique, c'est la conjoncture, c'est les périodes de croissance et de ralentissement économique. Donc quand il y a un ralentissement économique, ça monte. Donc si je reprends l'histoire, exemple, ici on a, donc pour la France, ici 2007-2008, on a la grande crise financière, donc le chômage est remonté, et là ça va mieux depuis le milieu de l'année 2015-2016, l'inflexion de Hollande est arrivée, est finalement arrivée, et donc on voit que ça redescend, la reprise économique est arrivée. Donc il y a ces aspects qui sont cycliques, qui sont inévitables dans la mesure où il y a des bonnes années et des mauvaises années, et le chômage suit toujours la conjoncture, mais il suit avec un décalage de 6 mois à 1 an. Donc quand la croissance revient, 6 mois à 1 an plus tard, on verra le taux de chômage qui va commencer à descendre. Quand il y a une récession qui arrive, 6 mois à 1 an plus tard, il va commencer à augmenter. Donc il y a ces fluctuations qui sont temporaires, qui sont cycliques, on les voit très nettement. Et ce que je veux faire maintenant, c'est gommer cet aspect cyclique, et donc je prends des moyennes sur 10 ans.
Donc ce qu'on voit ici, c'est la grande montée du taux de chômage, qui est un phénomène général dans tous les pays occidentaux. C'est lié à la crise qu'il y a eu à l'époque et le fait que ça a cassé la croissance de manière durable. Et si on regarde la France, on voit que la France, parmi les trois pays, se balade au milieu. Donc les Anglais ont eu tendance à faire moins bien que nous, les Allemands ont eu tendance à faire mieux que nous, mais tout le monde a ramassé un grand coup dans la figure et tout le monde est monté. Et alors si on continue, c'est ça qui devient amusant. Pardon ?
On a du mal par rapport au graphique précédent à voir le UQ, la petite tambour.
C'est le même, hein.
C'est le même,
c'est le même où j'ai simplement, si vous voulez, la grande Bretagne,
la
moyenne
de ces grandes. On n'est pas encore jusqu'au
bout. On n'est pas encore jusqu'au bout, je vous fais une petite surprise. Donc, voilà. Donc là, il y a la grande montée du chômage, donc le fait que le monde a changé, on n'est plus dans un monde où il y a 1 ou 2%. Ça a complètement changé. Et ça, c'est absolument général. Tous les pays ont ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pendant que la France et l'Allemagne restent très hauts, on voit la Grande-Bretagne qui commence à descendre, et à descendre très fortement. Aujourd'hui, ils sont 5%. Donc, la Grande-Bretagne avait un taux de chômage de 8 à 10% comme la France. Il y a 20 ans, et puis aujourd'hui, ils ont la moitié de ce qu'on a. Pourquoi ? Il y a eu une réforme du marché du travail. Donc l'ignoble Madame Thatcher, dont vous avez entendu parler, a fait une réforme profonde du marché du travail. Donc on pourra discuter, je n'ai pas prévu d'en parler, mais si ça vous intéresse, on pourra en parler de ce qu'elle a fait. On peut en penser beaucoup de mal politiquement, etc. Ceci dit, le chômage est redescendu. Ensuite, si on continue plus loin, on a la décennie en cours, donc de 2010 à 2017, et on voit, clac, que l'Allemagne redescend. Et qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Donc ça, vous avez dû en entendre parler 20 000 fois. Réforme du marché du travail, ces fameuses réformes du chancelier Schröder. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra en parler plus. Et crac, ça redescend. Et donc c'est ça que je voulais faire apparaître, c'est que alors que l'Angleterre et l'Allemagne sont arrivés à redescendre, donc à couper pratiquement en deux le taux de chômage, nous, on reste coincés. Et c'est ça qui est important, c'est que ce que ça veut dire, c'est qu'on a tout faux sur ça. L'autre chose, au point de vue des connotations politiques, Maggie Thatcher, bon, mais c'est la droite, c'est le parti conservateur. Schröder, c'était le parti social-démocrate allemand, donc c'est la gauche. Donc il y a des aspects politiques des choses, on pourra en parler, mais faire des réformes du marché du travail, ça peut être fait aussi bien par une aile politique que par une autre. Ce qui est important aussi, c'est de voir que ça prend du temps pour se mettre en place. C'est-à-dire que les Thatcher, c'est le début des années 80, c'est le milieu des années 80, c'est la grande réforme du marché du travail. Et vous voyez qu'il faut 5-10 ans pour que ça commence à descendre, et ça continue à descendre. Donc c'est quelque chose qui produit ses effets, mais qui les produit lentement. De la même manière, Schröder, c'est aux alentours au milieu des années 2000, 2004-2005, et il faut un moment pour que ça se mette en place. Donc ces réformes du marché du travail, c'est pas on change et puis tout va s'améliorer demain matin. Ça s'améliorera dans 5 ans, dans 10 ans, ça continuera à s'améliorer. C'est quelque chose de très lent parce que ça touche profondément à la structure du marché du travail en particulier et de l'économie en général. Donc c'est ce que je voulais tout de suite vous dire au départ. Et donc, pour résumer ce que j'essaye de dire, c'est le chômage, il y a une espèce de malédiction qui s'est produite, ou plutôt on a eu une période extraordinairement bénie dans les années 60. Ça, c'est fini, on ne le retrouvera pas nulle part. Mais ce n'est pas non plus une fatalité de rester accroché à 10%. On sait redescendre, on sait comment le faire, et c'est ça dont je veux vous parler. S'il y a des questions de clarification, hein, sans problème. Ouais.
Avant 89,
avant l'unification, c'est ça, c'est l'unification. Alors oui.
Oui. Pas la même population.
Non, alors oui, bonne question. Alors l'Allemagne, de l'Est, il y avait zéro chômage, c'était oui. La loi. Et donc quand l'Allemagne de l'Est est absorbée, il y a eu une éruption de chômage, parce que la moitié des entreprises, des usines allemandes, elles étaient obsolètes, elles avaient des tracteurs à trois pattes, des choses comme ça. Donc il y a eu une montée rapide du chômage, et donc ça a eu un impact négatif sur l'Allemagne, ça c'est sûr. Et il y a toujours plus de taux de chômage en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest.
Oui, d'accord, mais je voulais juste savoir si le taux de chômage affiché sur la ligne allemande, il se basait sur la même population. D'abord, le taux de chômage de la RFA et ensuite...
Alors, voilà. Absolument. Donc l'unification allemande, c'est ici. Donc c'est ça, c'est cette pointe. Donc les chiffres que j'ai les chiffres de l'Allemagne de l'Ouest avant l'unification. On n'a pas de chiffres sur l'Allemagne de l'Est. Et ensuite, à partir de 91, on a les chiffres pour l'ensemble de la nouvelle Allemagne. Et donc c'est ce que j'ai pris. Et on a un saut, on a fait une référence de saut là. Ça correspond à l'unification. D'un seul coup, il y a un bloc de chômage qui est arrivé. Absolument.
Ouais. Il y avait déjà une tendance.
Pardon ?
Il y avait déjà une tendance.
Oui, oui. Enfin, l'Allemagne était en train, comme les autres, de se retrouver avec un taux de chômage élevé. Absolument. Donc ça, c'était absolument général. J'aurais pu mettre 50 pays et vous ne verriez plus rien. C'est absolument général.
Quand même, ça chutait avant la réunification. Ça chutait bien le chômage en Allemagne. Et on a l'impression que l'effet de la réunification a fait changer tout ça. Il a fallu après récupérer de la réunification.
Absolument. Vous avez raison, en fait. Tu vas savoir les détails, dans les 90. Oui, non, mais 90, non, pardon.
En 90, c'est le creux, c'est ici, et 91, c'est la réunification. Donc l'Allemagne avait ramassé plein la figure comme tout le monde, ils étaient en train de récupérer comme tout le monde, parce que là, la fin des années 80, c'était une période d'expansion rapide, donc partout ça baissait. Et puis, il y a eu une récession qui s'est installée en 91, 93, partout dans le monde, donc c'est remonté partout, et c'est remonté très fortement en Allemagne à cause du problème de réunification.
On ne sait pas ce qui se serait passé en RFA s'il n'y avait pas eu la réunification.
Ben, ça serait probablement pas remonté aussi haut, ça serait remonté comme tout le monde, et ça serait baladé.
Pas remonté du tout,
pardon.
On n'en sait rien en fait.
Si, probable, parce que. Enfin, on n'en sait rien, on peut toujours refaire l'histoire comme on a envie.
Mais si on est sur le fait.
Mais
justement,
sur le fait. Alors, donc ça je voulais bien vous mettre ça en tête. Alors, maintenant un peu de discussion théorique. Alors, sur un plan abstrait. Donc là, je vais lancer quelque chose qui va peut-être vous faire vous secouer, mais on va revenir. La notion de base, c'est que si on avait un marché du travail totalement déréglementé, on aurait le chômage, on aurait un minimum de chômage.
Ça sort d'où, ça?
Donc, hein?
Ça sort d'où, cette affirmation?
C'est la théorie, je veux dire.
Quelle théorie?
Alors,
là, on commence à discuter, là. Non, stop.
Je savais que ça allait réagir.
Alors, je vous demande juste une chose. Charles va faire son...
Et après, on discute.
Après, oui. Alors, je vous assure, les idées préconçues, c'est pas notre truc.
Non, mais attendez. J'étais sûr que ça allait réagir, voilà. Mais je vais tout de suite faire marche arrière. C'est pour ça que j'ai mis très après. Et si vous voulez, après, je pourrais vous donner ce qu'il y a dessous, ce qui se cache dessous comme raisonnement. J'avais pas envie. J'avais commencé à en préparer une page pour expliquer ça. Je me suis dit non, je vais pas me lancer là-dedans. Ça va partir dans tous les sens. Alors. Pour essayer d'illustrer ça, je vous ai... C'est en anglais, je suis désolé, mais j'ai expliqué cette courbe qui montre le taux de chômage en Grande-Bretagne
depuis 1881 jusqu'à 2013, je crois.
Donc on a un siècle et demi. Oui, c'est ça. On a un siècle et demi de chômage. Et il est probable que 1881, il n'y avait pas de réglementation du chômage en Angleterre. C'est Zola chez nous. Enfin, il y avait de réglementation du chômage nulle part. C'était le début du mouvement syndical, le début de la réglementation. Donc, on avait un marché du travail à peu près complètement déréglementé. Et vous avez tous lu Zola et vous savez quels ont été ce qui se passait derrière ce marché du travail réglementé. C'est pour ça que j'ai pris ça. Je vais vous le reculer. Les Anglais ont des statistiques qui vont très loin en arrière. C'est pour ça que j'ai pris l'Angleterre. On n'a pas ces chiffres pour la France. J'ai cherché des données qui vont très loin à une époque où il y avait très peu ou pas de réglementation du chômage. Donc qu'est-ce qu'on voit?
On voit d'abord que ce n'est pas 0% et que le chômage moyen de cette époque, donc on voit les cycles de l'époque et on voit que ça se promenait aux alentours de 4%.
Pour des raisons diverses. Donc, quand je dis réduit le chômage au maximum, je ne dis pas zéro, je dis, dans le cas de la Grande-Bretagne, ça devait être aux alentours de 4%. Ce qu'on voit aussi,
on retrouve ça ici. Alors, après, on a la Première Guerre mondiale, et puis
je ne raconte pas d'histoire, c'est exactement l'inverse. Donc, le premier pic, donc on a ici.
La redescente quasiment à zéro, ça c'est la Première Guerre mondiale, parce que pendant une guerre, tout le monde est au front en train de se battre, donc il n'y a plus de chômage. Surtout à l'époque, il n'y avait que des hommes qui travaillaient, comme on les envoyait tous dans les tranchées, et il n'y avait plus de chômeurs. On a fait travailler ça, comme vous savez. Et puis il y a le retour de guerre, tous ces braves garçons qui reviennent, et on ne sait pas quoi en faire, donc il y a une montée du chômage. Ensuite, ici, il y a la crise de 1900, des années 30, donc ça se fait monter. Et puis, la Seconde Guerre mondiale, donc même chose, et puis après. Donc, ce qui est intéressant, c'est la période d'après-guerre ici, où il y avait encore une réglementation du chômage très limitée,
mais la montée en pression de l'état social en Grande-Bretagne, donc ça a été la grande montée de la réglementation du travail,
qui s'est mise en place rapidement. Et on voit le chômage rester très bas, plus bas encore qu'avant. Ce qu'on voit surtout, c'est que les fluctuations cycliques, elles sont minimum. Il ne se passe pas grand-chose. Donc quand il y avait des récessions, on rajoutait 3 ou 4 chômeurs à gauche. Quand il y avait une expansion, on les remettait au travail. Contrairement à cette période, donc cette grande période de déréglementation, l'absence de réglementation, il y avait une réglementation de rien du tout. Donc les cycles économiques étaient très profonds, il y avait des croissances et des violentes et des récessions très violentes avec des mouvements très violents de son chômage. Ça, on l'a complètement gommé depuis 1945, pas uniquement à cause de la réglementation du chômage, mais aussi parce que les gouvernements sont devenus interventionnistes. Ce qu'il ne faisait pas, il ne s'occupait pas de questions d'économie que les gouvernements à l'époque. C'était, j'y connais rien, je ne touche pas. Donc on voit ici la période heureuse de la Grande-Bretagne, où se met en place progressivement une réglementation forte. Et donc on voit, avec un délai de 5 ans, 10 ans, le chômage qui monte. Et puis ensuite l'histoire de la réforme du marché du travail.
Donc, quand je dis ça, quand je fais cette affirmation qui je savais aller provoquer, c'est pas complètement clair que d'abord c'est pas le chômage zéro, et ensuite c'est pas parce qu'il n'y avait pas de réglementation dans les années 30 qu'il n'y a pas eu de chômage. Il y a eu des phénomènes violents, donc le chômage minimum ou le réduire au chômage au maximum, ça ne signifie pas arriver à zéro, et même dans les mauvaises années, dans les années terribles, les années 30 de la grande récession, on n'était pas à zéro. Donc mon affirmation tout à fait très abstraite, elle est très limitée, il faut la prendre avec un gros grain de sel. Ça va mieux? Bon. Alors, de manière plus réaliste, donc je reviens à quelque chose de réaliste, ce que je veux dire, c'est que la réglementation du marché du travail est une des causes du chômage, mais pas la seule. D'accord ? C'est une des causes, et je vais m'en expliquer plus longuement tout à l'heure, et c'est pour ça que je suis intéressé à parler. Et on est en plein dedans aujourd'hui avec le président Macron qui a hier signé les décrets, etc. Donc c'est le sujet du jour. Donc on a eu le nez creux, et la date bien choisie.
Ouais,
donc il y a plein d'autres explications du chômage. J'ai listé les principales ici, tout n'est pas là. Donc il y a les fluctuations de la conjoncture, vous avez vu, qui fait que ça monte et que ça descend. Il y a le fait que les entreprises peuvent être inefficaces et donc gèrent mal la main-d'œuvre. Mais alors il y a une autre question massive qui est pourquoi les entreprises seraient inefficaces, c'est pas parce qu'elles sont bêtes, et donc il y a de nouveau une question de réglementation des entreprises qui peut arriver par derrière, mais je ne veux pas ouvrir ça. Ensuite il y a un problème d'inadéquation de la formation, c'est-à-dire que si on forme un grand nombre de jeunes à des métiers pour lesquels il n'y a pas de boulot, et ben ils seront au chômage. Donc là, c'est tout le sujet de l'éducation nationale, des formations, enfin, c'est un sujet massif. Je le signale, je ne veux pas rentrer dedans, mais c'est une des causes de la petite chômage. Et puis, il y a le problème des transitions quand il se produit des perturbations. Donc, j'ai listé les principales, la globalisation, le progrès technologique ou l'immigration. Donc, c'est toutes des choses contemporaines. Il y a des changements qui se produisent. On passe d'un monde à l'autre. Donc, il y a un siècle, on est passé des calèches à cheval à la voiture automobile. C'était un bouleversement. On a découvert l'électricité, la puissance, donc tout ce qui était la force humaine devenait beaucoup moins important. Les gens qui vendaient leur force n'avaient plus rien à vendre parce qu'il y avait des machines, on appuyait sur le bouton, ça ne marchait pas à tous les coups comme son micro, mais ça a été un bouleversement total. Donc quand ces bouleversements se produisent, ça peut au départ créer du chômage, mais bien entendu, ça crée du chômage au début et c'est très visible, et c'est pour ça qu'il y a il y avait des manifestations à la fin du 19e siècle, enfin des luttes violentes parce que les gens perdaient leur raison de, enfin, perdaient leurs emplois, ils les perdaient de manière définitive. On est en plein dedans en ce moment, mais ça en principe ce n'est que transitoire. Mais le transitoire peut durer longtemps si le marché du travail n'est pas adapté à traiter ce genre de choses. Donc on a des chocs tout le temps, des petits et des grands. Ces chocs ont des effets qui durent quelques années ou quelques décennies, mais c'est pas permanent. Oui.
Vous intégrez dedans la déréglementation internationale, notamment chinoise.
Je parle de globalisation.
Intéressant.
Je mets dedans, sans rentrer dans ça.
La mondialisation, en fait, c'est le terme un peu anglais.
Pardon,
mondialisation.
Oui, mondialisation. En anglais, oui, c'est globalisation. Là, je me suis fait avoir, c'est du franglais. Et c'est mondialisation, donc ce phénomène d'intégration mondiale, l'émergence de la Chine, en particulier, qui est un vrai bouleversement. Je continue, c'est à peu près clair. Alors, maintenant, pourquoi il y a des pays qui font mieux que d'autres ou comment ça se passe? Alors, ce que je veux insister ici, c'est qu'il n'y a pas deux pays qui sont pareils. Pourquoi? Parce qu'il y a l'histoire et les traditions sociales. C'est quelque chose de très différent. L'histoire s'est déroulée de manière très différente et donc les structures, la manière dont le marché du travail est organisé, le rôle des syndicats, le rôle du patronat, l'approche des uns et des autres, sont intimement liés à leur histoire, à l'histoire de chaque pays et les traditions qui ont été mises en place. Je reviendrai dessus, mais je vais le signaler dès le départ. Ensuite, il y a le poids des idéologies, parce que toutes ces questions de travail, ça touche très fortement, ça a des composantes idéologiques très importantes. L'exemple traditionnel, c'est la France et les États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est le pays du libre arbitre, du laisser-faire, c'est très encadré, mais à 10 000 lieues de la France, on a une tradition étatique, et je reviendrai un peu pour décrire comment je vois les choses françaises. Donc on a toujours l'habitude de contraster les deux. Et ça, ce qui fait que le marché du travail en France n'a rien à voir avec le marché du travail américain, ni la manière dont pensent les gens, ni la manière dont ça fonctionne, ni les résultats, etc. Donc ça c'est le résultat historique, on est comme on est, c'est comme on a la tête qu'on a parce qu'on a eu les parents qu'on a eus, qui ont eu leurs parents à eux, etc. Donc on est comme ça. L'autre chose qu'il y a, c'est que c'est extrêmement difficile de changer. Donc on a ces traditions, on a cette histoire, on est avec, et modifier ces traditions et faire évoluer l'histoire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. D'abord parce que les gens ont des opinions très ancrées, donc vous avez grandi avec des opinions, vous avez fait une vision du monde, et on sait, par les quantités d'études qui montrent, c'est très difficile aux gens de dire je vais penser différemment de ce que j'ai toujours pensé. Enfin, je pense que ça doit être proche de vos préoccupations, mais les gens se développent une vision du monde et des choses, et c'est extrêmement difficile pour changer d'être. Il y en a qui changent dans des circonstances particulières, mais c'est quelque chose qui est très difficile à changer. D'autre part, au fil du temps, dans tous les pays, en tout cas démocratiques, il y a des groupes d'intérêt qui se mettent en place pour défendre les situations ou pour faire évoluer la situation dans leur sens, et ces groupes d'intérêt sont très puissants. Et dès qu'on essaye de toucher à quoi que ce soit, paf, ils se défendent. Donc le changement par lui-même, et tout changement en tout cas économique, est extrêmement difficile parce que tout changement, ça revient à une remise en cause de ce qui existe, et toute remise en cause de ce qui existe, ça revient à ce qu'il y a des gens qui vont perdre un avantage qu'ils ont acquis, et en général, bec et ongle, ils se défendent. Et ça vaut pour toutes les réformes économiques. Chaque réforme économique est par définition conflictuelle. Et on entend très fort, hurler très fort ceux qui vont perdre, et la masse de ceux qui vont gagner, ils disent rien parce qu'ils ne se rendent souvent même pas compte qu'ils vont gagner. Donc ça vaut pour toutes les réformes économiques, vous pouvez penser à ce que vous voulez. Juste un tout petit exemple, il y a eu des tentatives de réforme du rôle des notaires, on va dire du bien ou du mal des notaires, mais il y a eu des tentatives pour réduire leurs coûts, etc., ou les pharmaciens, ce genre de choses. La première chose qu'on voit, c'est ces groupes deviennent extrêmement vocaux, expliquent à la population pourquoi ça sera une catastrophe pour elles si on s'attaque à leur situation. Et en face, on n'a personne qui explique que peut-être ça ne serait pas une mauvaise idée. Donc ça, c'est un phénomène, ce n'est pas du tout français, c'est absolument général. Dans tous les pays, le changement est difficile parce qu'il y a des groupes d'intérêts qui sont là pour défendre les intérêts de leur groupe à eux, mais qui ne sont pas nécessairement l'intérêt politique.
C'est des phénomènes corporatifs.
On peut appeler ça corporatisme, absolument. Mais c'est un classique, c'est absolument classique. Mais donc, l'autre aspect, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer tout à l'heure avec le chômage. La plupart du temps, quand on fait des réformes de structure et du marché du travail, ça met très longtemps à apparaître. Donc vous prenez le cas de l'Allemagne, Schröder a fait ses réformes. Il y a eu les premiers aspects négatifs, il s'est fait vomir par son parti politique, il a été éjecté. Et 10 ans plus tard, maintenant, c'est le héros en Allemagne, c'est l'homme qui a divisé le chômage par deux. Parce qu'il a fallu 10 ans pour voir les résultats. Et donc, il n'est pas pauvre, il est allé se vendre aux Russes, mais au point de vue politique, il est terminé de manière ignominieuse. Et maintenant, tout le monde reconnaît qu'il a bien fait de faire ce qu'il a fait. C'est lui qui a mis l'Allemagne en scène. Donc pour un homme politique ou une femme politique, faire des réformes du marché du travail, c'est par définition suicidaire, parce que ça consiste à en ramasser plein la figure en s'attaquant au groupe de pression, en essayant de changer l'opinion des gens et sans avoir de résultats qui arrivent tout de suite. Et les résultats, en général, ils arrivent pour le successeur. Alors, si on est élu à 39 ans et qu'on a des chances de rester 10 ans, on verra les résultats. Mais c'est rare et, en général, et c'est presque une règle, c'est-à-dire que les gens qui font des réformes profondes perdent le pouvoir dans les pays démocratiques. Parce qu'on leur en veut, ils ont secoué le cocotier et les premiers résultats sont négatifs. Ils perdent le pouvoir. Donc, c'est une règle générale. Donc, ça c'est quelque chose d'important. Mais et ensuite, l'analyse de comment ça se passe, tout ça, est très complexe. Donc, j'ai mentionné les États-Unis et France, et je veux revenir un petit peu là-dessus sur le marché du travail. Donc, les États-Unis, Donc les États-Unis, c'est Lonesome Cowboy que vous connaissez sous la forme des Lucky Luke. Donc c'est le pays de l'individualisme. Ça fait partie de leur histoire, de leur tradition. C'est chacun pour soi. Et il n'y a pas de raison que je paye pour les autres. Donc c'est vraiment une approche individualiste profonde. C'est la raison pour laquelle il y a tous ces débats sur le système de santé en ce moment. Il n'y a pas de système de santé universel aux États-Unis. Et la raison pour ça, c'est de dire, moi je paye ma propre assurance de santé, je ne vois pas pourquoi payerait la sienne, lui c'est un flemmard. Il ne fait rien, il ne veut pas payer, je ne vois pas pourquoi je payerais pour sa santé. Donc ça c'est quelque chose qui en France ou en Europe en général ne passe pas, et c'est complètement répandu aux États-Unis. Et sur le marché du travail c'est la même chose, c'est-à-dire moi je défends mon boulot, le mien, pas le sien. On peut travailler dans la même entreprise, on peut même travailler côte à côte dans le même bureau, dans le même atelier, mais lui et moi c'est moi et moi je me défends. Donc ça a un impact absolument gigantesque sur la manière dont on négocie entre employeurs et employés. Ça explique aussi le monde syndical américain n'a rien à voir avec le monde syndical français, parce qu'il y a une très forte montée de l'individualisme. En France, et donc ça touche le marché du travail de manière très directe. En France, on est collectif. On aime bien descendre dans la rue ensemble, encore aujourd'hui, et l'individualisme est considéré comme quelque chose de négatif. En tout cas, sur le milieu de travail, on est ensemble, on se bat ensemble, on se défend ensemble. Donc, c'est une vision complètement différente qui a complètement structuré le marché du travail. Donc là, c'est assez européen, mais la France est quand même très extrême dans cette direction, vous le savez sans doute. Et donc, la manière, notre système, notre marché du travail reflète très fortement cet aspect de massivement collectif. Il y a aussi une coupure idéologique très profonde, j'y reviendrai tout à l'heure, qui fait que, contrairement à l'Allemagne, en Allemagne, les syndicats vous disent, nous et les patrons, on est dans le même bateau. On rame, et puis on avance tous ensemble, et on ne va pas se taper dessus dans le bateau, parce que sinon il va se renverser, donc on défend notre entreprise. Ça, c'est un langage qui est très difficile à passer en France. Ça va encore un peu dans certaines petites ou moyennes entreprises, mais et encore, ça ne va pas. Donc ça, là encore, c'est toute l'histoire, toutes les traditions, tout ce qu'on a eu qui pèse. Et ça se retrouve dans la structure du marché du travail. Alors, maintenant, je vais reprendre un petit peu tout ça pour le cas de la France. Donc cette longue tradition dont j'ai parlé, j'ai voulu le faire ressortir. Il y a beaucoup de choses à en dire, on peut en parler pendant des heures, des dizaines de livres, des centaines de livres qui ont été écrits là-dessus, mais je vais faire juste ressortir ce qui me paraît important. Donc il y a cette méfiance entre employé et employeur. Donc se mettre d'accord avec le patron, c'est quasiment trahir ses petits camarades. Bon, ça varie d'un syndicat à l'autre, ça vit d'entreprise, mais c'est quand même instinctif. La plupart d'entre nous, on a quelque part le patron, c'est un sale type par définition, sinon il ne serait pas patron. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans la tradition française, dans nos visions collectives. Ensuite, il y a des clivages idéologiques. Donc la France a une très fort clivage. Ça remonte avant-guerre. Donc il y a eu toutes les histoires de Front Populaire, ensuite il y a toute l'histoire de la guerre avec la résistance, la résistance gaulliste, la résistance communiste, et on vit tout sur la manière dont ces deux blocs ont pris le pouvoir après 1945, et on a tous grandi, enfin mes souvenirs d'école de la République, c'est que ce clivage idéologique était présent constamment. Et donc un clivage avec difficile de se mettre d'accord. Et puis il y a le colbertisme, donc qui remonte à l'ami Colbert, donc ça va beaucoup plus loin, et l'idée que l'État doit être au centre de tout, l'État doit contrôler les choses, c'est de l'État que vient le salut, c'est l'État qui doit m'aider ça se mélange avec l'absence d'individualisme. Quand il y a une tempête, on a tendance que l'État vienne nous donner de l'argent, etc. Donc il y a cette pression très forte de cette vision que l'État est une bonne chose et l'État est notre mère protectrice. Donc ça, c'est quelque chose de très français. C'est évidemment absolument pas le cas aux États-Unis, c'est pas le cas en Allemagne non plus. Donc mes amis allemands m'ont expliqué, quand j'ai commencé à me faire des amis allemands, en me disant, nous, on a eu le nazisme et on a compris que l'État peut devenir quelque chose de très méchant. Très très méchant. Et donc on ne veut pas un État puissant, ou un État qui soit rabougri, qui s'occupe du minimum de choses. Qui est d'une manière ou d'une autre la vision américaine. La vision américaine remonte au XVIIIe siècle, Tocqueville et tout ça, les une forte influence française, mais qui n'a jamais pris racine chez nous. Et donc ça c'est la manière dont nous, on fonctionne. Le résultat de tout ça, donc je vais faire apparaître, et là de nouveau ça va devenir controversé, et on s'en expliquera, ça veut dire que pendant, ça fait longtemps, enfin au moins depuis 1945, il y a eu constamment ce qu'on appelle en France des acquis sociaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle des luttes syndicales, des luttes des employés, qui ont obtenu protection et protection et protection. Et ça s'est accumulé depuis. Enfin, il y en avait un peu déjà en 1945, mais très peu. C'est vraiment au départ, la résistance qui a accouché de ça. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que depuis 1945, la protection sociale et donc les réglementations du marché du travail n'a pas arrêté d'augmenter. Et je vous montrerai les résultats tout à l'heure. Une autre caractéristique de la France, et que je vais illustrer en 10 minutes, c'est que les syndicats ont un rôle institutionnel très fort. Ils font partie des institutions de la République et donc ils ont un poids dominant sur le marché du travail et sa réglementation. Et le troisième aspect, c'est que le dialogue social est particulièrement difficile en France, et ça c'est quelque chose que, ayant beaucoup vécu à l'étranger, en m'étant promené, c'est ce qui me frappe toujours, c'est comme c'est difficile d'avoir un dialogue social en France, alors qu'il est beaucoup plus simple et plus naturel dans la plupart des autres pays. Oui. Ben, le patron de l'entreprise s'assoit avec ses employés et puis discute le bout de gras, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut changer, comment il faut fonctionner. Les employés disent pourquoi on ne fait pas ça, et le patron va dire ah ouais, c'est une bonne idée, etc. Ou mon salaire est trop bas, bon ben on va en discuter, etc. Donc les conditions de travail, le mode de travail, les niveaux de rémunération, c'est des choses qui sont conflictuelles en France et qui ne sont pas. En tout cas pas dans un tel degré à l'étranger. Et ça vient de notre histoire. Alors, maintenant, j'ai produit un certain nombre d'affirmations et je vais essayer de vous montrer à travers des chiffres quelques résultats. Donc ici, ça, c'est des calculs faits par l'OCDE. Donc l'OCDE, comme vous savez, à Paris, est un organisme international qui collecte des informations et qui fait des analyses, et ils se sont pas mal spécialisés sur les questions d'emploi. Parmi les nombreuses choses, je vous montrerai d'autres chiffres qu'ils ont fait. Ils ont calculé un indice de rigidité du marché du travail, donc complètement comparable d'un pays à l'autre. Ils ont pris la même grille de lecture, des critères, donc 10, 20, 30, je ne me rappelle plus les critères, et ils les ont appliqués à tous les pays, et ils ont mis une note, si vous voulez, une espèce de note au pays. Donc on peut discuter, on peut dire moi j'aurais fait différemment, c'est vrai, mais c'est un travail sérieux. L'ayant regardé de près, j'ai trouvé que c'était un travail sérieux, donc je me sens de vous le montrer. Donc ici vous avez une échelle, vous ne voyez pas, qui va de 0 à 1,5, plus c'est élevé, plus c'est rigide. Okay. Et il y a deux cas, il y a le cas des contrats à durée indéterminée et les contrats temporaires. On appelle en France les CDD. Le bâton rouge, c'est la France. Donc, plus on est à droite ici et plus on est à droite là, plus le marché du travail est rigide. Et les conditions d'embauche, d'emploi, les histoires d'hygiène, etc., enfin, de santé et tout ça c'est aggloméré dans un chiffre.
Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que la France, aussi bien pour les CDI que pour les CDD, est très à droite. Donc c'est le bâton rouge pour la France. Vous ne pouvez sans doute pas lire les petites lettres, mais c'est le bâton rouge. Donc déjà,
on voit que quand je vous dis on a accumulé pendant des décennies des acquis sociaux qui ont rigidifié le marché du travail, c'est pas évidemment un mensonge que de vous dire ça. En comparaison internationale, ça paraît très facile.
Il y a encore plus intéressant que ça. Si on regarde ici les pays qui sont plus rigides que la France sur les CDI, donc dans l'ordre, en partant à droite de la France, on va voir la Suède, puis le Chili, puis l'Allemagne, puis l'Italie. Donc l'Allemagne est plus rigide sur les CDI que la France, puis l'Italie, puis la Lettonie, ça ne vous excite probablement pas, les Pays-Bas, la République tchèque et le Portugal. Donc ça, c'est
d'un bout à l'autre les pays qui sont plus rigides. Maintenant, à l'autre bout de l'échelle, je vais vous en dire quelques-uns ici, parce que c'est intéressant, je vais en donner 3 ou 4. Donc en partant de la gauche, on a évidemment les États-Unis, puis le Canada, puis la Grande-Bretagne, puis le Japon, puis la Nouvelle-Zélande, puis l'Irlande, donc les pays anglo-saxons, plus le Japon. Oui.
Est-ce que, c'est juste pour clarifier, rigidité, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a plus de protection, que ça met plus de temps à discuter, qu'il y a plus de règles, qu'il y a plus
Voilà.
C'est
pas clair ce que c'est.
Quand ça, votre flexibilité, c'est qu'il y a plus de règles, qu'il y a plus de protections, ou est-ce qu'elles sont plus difficiles à discuter?
Ces règles limitent. En gros, la rigidité, c'est-à-dire que ça limite plus les conditions d'emploi, d'embauche, d'emploi, de licenciement. Ça contraint plus, pas nécessairement les entreprises, mais quand les entreprises négocient avec leurs employés, les termes de la négociation sont plus contraints, plus difficiles à mener.
Contraints pour qui ?
Pour les deux. Pour les deux.
Si je peux me permettre, c'est en opposition au terme de flexibilité.
Oui, c'est l'opposé de la flexibilité. Donc, plus flexible, c'est là, il y a plus de liberté de faire ce qu'on veut, d'un côté comme de l'autre.
Je pense que le terme, il faudrait être très précis sur ce que signifie ce terme de flexibilité et de rigidité pour savoir.
Alors, ce que j'aurais dû faire, je suis d'accord.
Ce que j'aurais dû faire,
c'est vous amener la liste des critères en disant voilà.
Parce que flexibilité, vous me dites. Par exemple, c'est valable aussi pour les deux. Mais par exemple, je ne peux pas discuter avec mon patron, lui dire tiens, tu vas bosser mon salaire parce que j'ai décidé, parce qu'il y a un contrat de subordination entre moi et le patron. Donc c'est pas plus flexible pour les deux.
C'est le marché qui commande, c'est pas le salaire.
C'est le patron qui décide.
Non, mais par exemple, vous pouvez aller voir le patron et lui dire là, ça fait 6 mois que je travaille comme une bête, je veux une augmentation de salaire. Et le patron, il va dire. Oui, c'est vrai, ça fait 6 mois que tu as bien travaillé, puis donc je vais t'augmenter, mais je ne peux pas t'augmenter de manière permanente. Donc je t'augmente, mais d'ici un an, s'il faut, je serai obligé de te baisser. Ça, c'est interdit. Vous ne pouvez pas baisser un salaire en France.
Pardon. Le patron peut dire, je suis désolé, mais il y a un barème, je suis tenu par un accord de branche, et donc tu as fait classification. Il peut dire ça. Alors, il y a toujours des possibilités, mais c'est quand même contraint. Je ne fais pas n'importe quoi.
C'est un exemple. Ce que j'aurais dû, c'est vous amener la liste. Non, mais c'est une question de vérification, c'est important. Alors, ce que je vous ai.
Disons qu'il y avait le mot réglementé, ça serait pas
plus. C'est le poids de la réglementation. J'ai repris le terme de l'OCDE, ils appellent ça un indice d'officialité, je l'ai pris. C'est le poids de la réglementation.
Alors, je vous ai dit ici les pays qui étaient plus réglementés que la France pour les pays. J'avais entre autres l'Allemagne.
Oui, il y avait l'Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe là, de l'autre côté, sur les contrats à durée déterminée. Donc là, la France est en 3e position. Et les pays qui sont plus contraints, où c'est plus contraint, où c'est plus réglementé que la France, il y a 2 pays, c'est le Luxembourg et la Turquie.
D'accord.
On n'est pas le marché du travail turc ou luxembourgeois, mais c'est les pays qui sont plus contraints. Par contre, tous ceux qui étaient à droite ici, qui étaient plus contraints que la France sur les CDI, ils vont faire
se retrouvait à gauche et certains relativement loin à gauche. Je vais essayer de repérer l'Allemagne pour vous la montrer parce que l'Allemagne était au-dessus. Voilà, donc l'Allemagne est à peu près, si je reviens, voilà, l'Allemagne est ici. Donc si vous comparez le marché du travail français et le marché du travail allemand, l'Allemagne est ici, c'est-à-dire que les emplois à durée indéterminée sont encore plus contraints qu'en France. Par contre, les emplois à durée indéterminée sont beaucoup plus souples. Donc le marché du travail en Allemagne est un marché qui, si ça coince d'un côté, il y a toujours la soupape de sécurité des CDD, alors que nous, en France, on considère que les CDD, c'est une marge de sécurité. Donc il y a beaucoup d'embauches qui se font sous CDD, mais parce que les gens sont licenciés au bout. Donc les CDD, c'est pas du tout ce qu'on raconte, en tout cas en comparaison internationale. Et les entreprises, donc il n'y a aucun pays qui soit autant à droite, en gros, en moyenne, que la France. Donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, à gauche, ici, tout à fait à gauche, on va retrouver les mêmes, Canada, USA, Grande-Bretagne, Irlande. C'est les mêmes ici et là. Donc les pays anglo-saxons sont très différents de nous. Deuxième chose que je voulais montrer, c'est le pouvoir syndical. Alors, ça encore, c'est des données de l'OCDE, mais c'est simple. Ici, il y a le taux de syndicalisation. Donc ça, c'est le pourcentage d'employés qui sont adhérents à des syndicats. La France, ici, comme vous le savez, avec 8%, le taux de syndicalisation de la France est un des plus bas dans le monde développé. Ici, il y a là encore la Turquie. Et ici, il y a l'Estonie. Ici, par contre, vous avez...
Plus la Belgique. Donc dans l'ordre de droite à gauche, le plus syndicalisé c'est l'Islande, puis la Finlande, puis la Suède, puis le Danemark, puis la Belgique, puis la Norvège. Donc on a des syndicats qui sont qui représentent facilement l'échelle ici.
On est ici à 50%. Il y a la moitié des employés qui sont syndicalisés. Le graphe de droite parle du taux de couverture conventionnelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un accord collectif, un accord de branche ou un accord national, quel est le pourcentage d'entreprises qui doivent automatiquement accepter cet accord ? D'accord ? C'est comme vous connaissez. Comme vous voyez, la France est à l'extrême droite, avec quasiment 100%.
C'est tout l'enjeu de la réforme de Macron. La France a égalité avec l'Autriche, qui est un pays très corporatrice. Et derrière, juste après l'Autriche, il y a la Belgique, la Finlande et la Suède, et l'Islande. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ben, prenez la Suède ou la Finlande.
La Finlande est là, l'Islande est là. L'Islande, il y a à peu près 90% des employés qui sont syndiqués. L'Islande est là, je crois. On est quelque part par là, donc un taux de couverture important. Ça veut dire que quand il y a des accords de branches nationaux passés entre les syndicats et le syndicat des patronats, ça s'applique à pratiquement toutes les entreprises. Mais les syndicats représentent pratiquement tous les ouvriers. Alors qu'en France, on a une situation qui est complètement paradoxale, qui est à la grande spécialité française, c'est-à-dire que les syndicats qui ont 8% d'adhérents qui pèsent, qui représentent plus de monde, mais qui sont contrôlés par 8% d'adhérents, impactent sur pratiquement 100% des accords entre employés et employeurs. C'est un problème.
Est-ce qu'il y a des pays qui ont même profit que la France rapprochement
Donc, si on part à gauche, là, le tableau. C'est dommage. Il y a l'Estonie, la Turquie, la France, la Corée du Sud, la Hongrie, les États-Unis, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie, le Mexique, l'Australie. Ça, c'est tout ce qui est fait à gauche, les endroits pas syndicalisés. Vous allez les retrouver, la plupart, très à gauche aussi. Donc, syndicats peu représentatifs par le nombre d'adhérents, leur pouvoir est très limité. Et nous, on a un système qui est complètement unique. Finalement, je crois que c'est ma dernière figure. Non. je ne veux pas vous abreuver de chiffres et je vais garder du temps. Là, c'est l'histoire du salaire minimum. Donc ici, vous avez le ratio entre le salaire minimum et le salaire médian. Le salaire médian, c'est celui où la moitié des gens touchent plus et la moitié touche moins. C'est une espèce de salaire moyen. Donc,
au-dessus de la France, on a la Chine et la Turquie. En France, donc, on est au-dessus de 60, aux alentours de 65%.
C'est-à-dire que le SMIC est à 65% en gros de la moyenne des salaires proches. Donc, encore une fois, très à droite.
Encore une fois, si on va à gauche, États-Unis, Espagne, Mexique, République tchèque, l'Allemagne est ici, ça fait la moyenne des pays de l'OCDE. Et la Grande-Bretagne,
donc,
non,
quand, si vous voulez, quand, si la moyenne, le salaire moyen en France est de 2000 euros, le SMIC est de 65% de 2000 euros.
C'est à peu près.
Alors, le salaire médian. Alors, pour ceux qui connaissent les statistiques, c'est médian. Pour ceux qui ne connaissent pas les statistiques, j'ai essayé de simplifier en parlant de moyens, c'est pas exactement la même chose. Mais c'est pas très loin. Ouais.
On peut pas avoir le mode.
Le mode.
Le mode, c'est-à-dire le salaire reçu par le plus grand nombre de personnes.
Non, 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 non. Alors, c'est très, le mode est en bas. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est important, c'est que...
En France, il y a un très grand écart entre les plus grandes richesses et les plus pauvres. Donc, du coup, on peut faire effectivement une moyenne assez haute. Mais si on regarde le mode qui montre justement la salaire,
oui.
La distribution du plus grand nombre de personnes,
on
parle de salaire.
On parle de salaire. Donc, non, vous avez raison. Simplement, si vous regardez la distribution, très à droite, les très niveaux, très haut niveau, il y a très peu de monde. Donc, quand on arrive au médian ou à la moyenne, ça pèse pratiquement rien du tout. Mais c'est vrai. Et c'est important ce que vous dites. J'aurais dû amener ça. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'une grande partie des salaires français sont au bas de la distribution, sont SMIC plus 10 ou 15%. Ça, c'est l'essentiel. Et quand on bouge le SMIC, on bouge tout le bas de la distribution des salaires. Parce que chaque fois qu'on relève le SMIC, tout ce qui est au-dessus, jusqu'à 10-15%, bouge à peu près en même temps. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, comme on ne peut pas aller en dessous du SMIC, et qui représente une partie importante, enfin, il représente un niveau, une partie, il est important par rapport au niveau moyen, il y a tout un tas de gens qui pourraient travailler, mais à des niveaux de salaire plus bas, qui sont bloqués sur le marché du travail. Ils n'ont pas de chance, en fait, d'avoir un emploi. Et j'ai ici une indication de ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails.
Ici, vous montrez le pourcentage de la population active qui travaille dans les emplois, dans les secteurs peu rémunérés, traditionnellement peu rémunérés. Donc ici, vous avez le commerce de gros détail, et ici, c'est hôtel-restaurant. Ça, c'est des endroits où il y a beaucoup de salaire. Mais vous voyez qu'en France et en Italie, il y a peu de gens qui travaillent dans ces secteurs, comparativement, en comparaison avec l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis.
Ce que ça signifie, c'est que le SMIC fait que les entreprises dans la restauration, c'est trop cher d'employer les gens, parce qu'il y a un SMIC, et donc on fait avec moins de monde. Pardon ? Ou on paye au noir, alors, évidemment. Ça, c'est l'autre partie. Mais ce que je veux montrer par ça, c'est que ce qu'on appelle parfois les petits boulots, les boulots mal payés, il y en a moins en France qu'ailleurs, légalement, pas au noir, parce que le SMIC empêche de tromper la distribution.
Je termine, on discute.
Mais tout ce que je dis, je sais très bien que c'est extrêmement controversé. J'essaye de documenter, j'essayais d'analyser, de vous montrer des chiffres pour vous dire que derrière l'analyse que je vous ai présentée, il y a des choses. Là, je vais passer. Là, je voulais coller à ce qui se passe en ce moment avec la loi travail. Ici, j'ai les recommandations de l'OCDE pour renforcer l'emploi. Et ici, j'ai les mêmes du Fonds monétaire, je les ai en anglais, je vais passer. En gros, c'est une grosse partie de la loi travail qui a été déroulée là. Et donc, je vais arriver à la fin pour laisser un moment pour la discussion. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la France est différente. Avec notre addition, donc taratata, ou cocorico plutôt, mais que l'autre aspect de la différence n'est pas très glorieux, en tout cas en ce qui concerne le marché du travail, c'est quand même, on est spéciaux, mais il n'y a pas de quoi être particulièrement satisfait de la situation. Voilà, je vais m'arrêter, et maintenant à vous de tirer.
Allez, c'est toi qui as mis la langue.
Bon. Et j'ai dit, c'est très difficile de changer de langue.
Pardon. Allez.